le collecteur obligeait Tim à avaler du liquide. Il tenta de lui résister, mais en vain. Le collecteur se contenta de lui tirer les cheveux et, lorsqu'il poussa un cri, en profita pour lui insérer le goulot d'une flasque entre les dents. Un fluide de feu coula dans sa gorge. Ce n'était pas de l'alcool, car cela le calma plutôt que de le griser. Bizarrement, il avait l'impression d'être un intrus dans son propre crâne.
« Cette potion cessera d'agir dans 10 minutes, et je te laisserai partir, » dit le collecteur.
Toute jovialité avait disparu de sa voix. Il cessa de l'appeler jeune Tim. Il cessa même de prononcer son nom.
« Maintenant, ouvre bien tes oreilles et écoute-moi. C'est à Tavares, à 40 roues d'ici, que j'ai entendu parler d'un bûcheron qui se serait fait rôtir par un dragon. Cette histoire était sur toutes les lèvres. Une femelle, aussi grande qu'une maison, prétendait-on. Je savais que c'était des conneries. Peut-être subsiste-t-il encore un tigre dans cette partie de la forêt. »
En disant cela, le collecteur esquissa un rictus des plus fugaces.
« Mais un dragon, jamais de la vie. Ça fait 10 fois 10 années qu'on n'en a pas vu un seul aussi près de la civilisation, et jamais on en vit un qui soit aussi grand qu'une maison. Cela a donc éveillé ma curiosité. Pas parce que le grand Ross est un contribuable. Était, devrais-je dire. Encore que j'aurais expliqué ainsi mon intérêt si quelques membres de la populace édentée avaient été assez gâches pour me poser la question. Non, je suis curieux, voilà tout. Et mon plus grand vice a toujours été de vouloir percer des secrets. Un jour, cela causera ma mort, je n'en doute point. La nuit dernière, avant d'entamer ma tournée, j'ai déjà campé au bord de la piste du bois de fer. Sauf que je suis allé jusqu'au bout de la dite piste. Les écriteaux que l'on trouve avant le Fagonard portent les noms de Ross et de Kels. C'est dans leur concession que j'ai empli ma bassine, juste avant les marécages. Et qu'ai-je donc vu dans l'eau? Un écriteau portant les noms Cossington Marshley. J'ai remballé Maguna, j'ai enfourché Blackie et je suis revenu ici, juste pour fouiner un peu. Il était inutile de consulter à nouveau la bassine. J'ai vu que notre ami le Pookie hésitait à s'aventurer dans ce coin et j'ai vu que les bestioles n'avaient pas pollué cette partie du courant. Ce sont des nécrophages plutôt voraces. Mais à en croire les contes de bonnes femmes, elles ne touchent pas aux chairs d'un homme vertueux. Les bonnes femmes se trompent souvent, mais pas sur ce point-là. L'eau fraîche l'a bien conservée, et s'il ne semble porter aucune marque, c'est parce que son meurtrier l'a frappé par derrière. J'ai vu en le retournant que son crâne était défoncé, mais je l'ai remis dans sa position initiale afin de t'épargner cette vision. »
Le collecteur marqua une pause puis ajouta
« Et aussi afin qu'il te voie, si son essence s'est attardée auprès de son enveloppe charnelle. Les bonnes femmes ne sont pas d'accord sur ce point. Est-ce que ça va, Tim, ou est-ce que tu veux une autre dose de naine ?»«
Ça va. »
Jamais il n'avait proféré plus gros mensonge.
Je me doutais de l'identité du coupable, comme tu t'en doutes aussi, je présume, mais j'en ai eu confirmation au saloon de Gitti, ma première halte quand je suis arrivé à l'arbre. Le tavernier du coin est presque toujours le meilleur contribuable, 12 barrettes, voire davantage. Là, j'ai appris que Bernkel savait boucler la corde avec la veuve de son défunt associé.
« C'est à cause de vous, »
dit Tim d'une voix monocorde qui lui était peu coutumière.
« De vous et de vos saletés de taxes. »
Le collecteur porta la main à son cœur et répondit d'un air froissé.
« C'est un grand tort que tu me fais là. Ce n'est pas à cause des taxes que le grand Kel se bouillait dans son lit toutes ces années, oui là, même quand il avait une autre femme à ses côtés.
Il poursuivit sa diatribe, mais la potion qu'il appelait naine cessait peu à peu d'agir, et Tim avait du mal à le suivre. Soudain, de glacé, il se sentit devenir brûlant, et son estomac se retourna dans tous les sens. Il se dirigea en titubant vers ce qui restait du feu de camp, tomba à genoux et vomit dans le trou que le collecteur avait creusé avec son talon.
« Ah !»
fit l'homme à la cape noire, d'une voix pleine de satisfaction.
« Je savais bien que ça servirait à quelque chose. »« Maintenant, va retrouver ta mère !»
dit le collecteur tandis que Tim, la tête basse, purgé de sa bile, fixait le feu de camp derrière le voile de ses cheveux.
« Tu es un bon fils, je le sais. Mais j'ai quelque chose pour toi. Patiente encore un peu. Ça ne fera aucune différence pour Nell Kells. Elle est comme elle est. »«
Ne l'appelez pas comme ça !» cracha Tim.
« Comment veux-tu que je l'appelle ?» N'est-elle pas mariée? Un mariage hâtif, repentir actif, comme disent les anciens.
Le collecteur s'accroupit devant sa guna et sa cape s'enfla pour se déployer comme les ailes d'un oiseau de mauvais augure.
Ce qui est bouclé ne peut être débouclé, ajouta-t-il. Sur certains niveaux de la tour prévaut un concept amusant baptisé divorce. Mais il est inconnu dans notre charmant petit coin de l'entre-deux-mondes. Bon, voyons. Je suis sûr que c'est quelque part par là.
Je ne comprends pas pourquoi Peter le costaud et Ernie le lambin ne l'ont pas repéré.
Tim se sentait vidé de toute énergie. Un vif sentiment animait son cœur, mais il ne parvenait pas à l'identifier.
Cette concession est la leur, et ils ont repris le travail dès que Cossington a été remis sur pied,
conclut-il.
Si fait. Ils ont abattu des arbres de fer, mais pas dans ce coin. Ils ont quantité d'autres chicots. Celui-ci, ils l'ont laissé en jachère. Peux-tu deviner pour quelle raison?
Tim y parvint sans peine. Peter le costaud et Ernie le lambin étaient de braves gars, mais ce n'étaient pas des foudres de guerre, raison pour laquelle ils hésitaient à s'enfoncer dans la forêt.
Ils attendaient que le Pookie s'en aille, je suppose.
C'est un enfant plein de sagesse, opina le collecteur. Il intuite bien. Et à ton avis, quels étaient les sentiments que ton beau pas, qui savait que ce ver d'arbre risquait de frapper d'un instant à l'autre et ses deux bûcherons de se pointer pareillement? Il n'aurait pas manqué de constater son forfait, à moins qu'il n'ait eu le courage de déplacer le cadavre.
Le cœur de Tim battait plus fort que jamais. Il s'en félicita. La rage était préférable à la terreur que lui inspirait le sort de sa mère.
« J'espère qu'il a des remords. J'espère qu'il n'en dort plus. »
Puis, sous le coup d'une illumination,
« C'est pour ça qu'il s'est remis à boire.
Un enfant plein de sagesse, en dépit de son jeûne. Ah, nous y voilà !»
Le collecteur se tourna vers Tim, qui s'affairait à présent à détacher Bitsy en attendant de l'enfourcher. Il s'approcha du garçon, tenant un objet dissimulé sous sa cape.
Il a agi sur une impulsion, c'est entendu. Et ensuite, il a dû être pris de panique. Sinon, pourquoi aurait-il concocté une telle fable? Les autres bûcherons sont dubitatifs, tu peux en être sûr. Il a fait un feu de camp et s'est exposé à lui le temps qu'il fallait pour brûler ses vêtements et se roussir le cuir. Je le sais. Car c'est sur les ruines de son feu que j'ai bâti le mien. Mais tout d'abord, il a jeté la guna de son défunt associé par-delà le ruisseau, aussi loin que le lui permettait la force de ses bras. Oui, là, il a fait ça, alors que le sang de ton père n'avait pas fini de sécher sur ses mains. Il n'y avait pas grand-chose à glaner là-dedans, mais j'y ai déniché quelque chose pour toi. La rouille l'avait attaqué. mais grâce à ma pierre ponce et à mon affûtoir, j'ai pu la remettre à neuf avant de te la rendre. »
De sous sa cape, il sortit la hache du grand Ross. Son fil nouvellement affûté était luisant. Tim, à présent juché sur Bitsy, l'accepta, la porta à ses lèvres et en embrassa l'acier glacial. Puis il glissa le manche dans sa ceinture, veillant à écarter la lame de sa chair ainsi que le grand Ross le lui avait appris. Il était une fois.
« Je vois que tu portes un doublon de rhodite autour du cou. Il appartenait à ton pain ?»
Une fois sur sa mule, Tim pouvait regarder le collecteur en face.
« Je l'ai trouvé dans la malle de son assassin.
Tu possèdes sa pièce. Maintenant, tu possèdes aussi sa hache. Où vas-tu la planter si le cas t'en offre la possibilité ?»«
Dans sa tête. »
La rage. Une rage pure jaillissait de son cœur comme le pus d'une plaie infectée.
En plein front ou dans la nuque, cela m'est égal.
Admirable! Un grand garçon plein de projets, j'aime ça! Que les dieux soient avec toi, et aussi l'homme Jésus pour faire bonne mesure.
Puis, ayant ainsi attisé la colère de Tim, il entreprit d'en faire autant pour son feu.
Peut-être que je vais m'attarder un jour ou deux dans les parages. L'arbre me paraît fort intéressant, cette pleine terre. Prends garde à la cigue verte, mon garçon. Elle luit fort. Ça, oui.
Tim ne répondit point, mais le collecteur jugea qu'il avait bien entendu. Quand ils sont bien remontés, ils entendent toujours. La veuve Smack devait le guetter à la fenêtre. Car il n'avait pas plus tôt laissé devant le perron une bite si colérique, il avait dû parcourir le dernier demi-mile à pied en dépit de son inquiétude qui allait croissant, qu'elle sortait en courant de la maison.
« Les dieux en soient loués, et ta mère était aux trois quarts prête à te croire mort. Viens, dépêche-toi, il faut qu'elle t'entende et te touche. »
C'était là une étrange façon de parler, mais Tim ne le comprit que plus tard. Il attacha Bitsy à côté de Sunshine et monta en courant sur le perron.
« Comment avez-vous su qu'elle avait besoin de vous, Sai ? »
demanda-t-il. La veuve se tourna vers lui. Le voile l'empêchait toujours de voir son visage.
« T'aurais-tu perdu l'esprit, Timothy ? Tu es passé devant chez moi, exhortant ta mule à presser le pas. Comme je ne comprenais pas pourquoi tu sortais si tard, pour aller dans la forêt, qui plus est, je suis allé interroger ta mère. Mais viens, suis-moi, et si tu l'aimes, fais semblant d'être en joie. »
La veuve le conduisit dans le séjour, éclairé par deux scintilles en veilleuse. Dans la chambre de sa mère, où une autre scintille brûlait sur la table de chevet, il découvrit Nell gisant sur son lit, des bandages autour du visage et un autre imbibé de sang qui lui faisait un collier. En les entendant approcher, elle se redressa sur sa couche, le visage déformé par une grimace de panique.
« Si c'est Kells, ne m'approche pas. Tu en as assez fait. C'est moi, maman, c'est Tim. »
Elle lui ouvrit les bras.
« Tim, mon chéri !»
Il s'agenouilla près du lit et déposa des baisers mouillés de larmes sur les parties de son visage qui n'étaient pas couvertes de bandages. Elle portait toujours sa chemise de nuit, mais le tissu en était à présent raide de sang séché. Tim avait vu son beau-père l'assommer avec la cruche, puis la bourrer de coups de poing. Combien de fois l'avait-il frappé ? Impossible de le dire. Sans compter qu'il ignorait ce qui s'était passé après que la bassine en argent avait cessé de lui montrer la scène. Tout ce qu'il savait, c'était qu'elle avait de la chance d'être en vie. Mais il comprenait pourquoi la veuve avait dit
« Il faut qu'elle t'entende et te touche. »
Et non pas plus simplement
« Il faut qu'elle te voie. »
L'un des coups portés par son beau-père, avec la cruche sans aucun doute, l'avait rendu aveugle.
C'est ce qu'on appelle une commotion,
dit la veuve Smack. Elle avait pris place sur le fauteuil à bascule de Nell. Tim, assis sur le lit, tenait la main gauche de sa mère dans la sienne. Deux des doigts de la droite étaient cassés. La veuve, qui n'avait pas chômé depuis son arrivée providentielle, y avait posé des attelles avec du petit bois et des bandes de flanelle prélevées sur une chemise de nuit.
« J'ai déjà vu cela, » reprit-elle. « Le cerveau est enflé. Quand il ira mieux, peut-être qu'elle recouvrera la vue. »«
Peut-être, »
répéta Tim d'une voix lugubre.
« Il y aura de l'eau, si Dieu le veut, Timothy. »«
Mais notre eau est empoisonnée à présent, » songea Tim, « et Dieu n'a rien à voir là-dedans. »
Il fit mine d'ouvrir la bouche pour prononcer cette sentence à haute voix, mais la veuve secoua la tête.
« Elle dort. Je lui ai fait boire une tisane, pas trop forte, vu les coups qu'il lui avait assénés, mais elle a fait effet. Je n'en étais pas sûr. »
Tim considéra le visage de sa mère. D'une pâleur effroyable, avec des taches de sang sur les bouts de peau qui dépassaient des bandages. Puis il se retourna vers sa maîtresse d'école.
« Elle va se réveiller, n'est-ce pas ?»«
Il y aura de l'eau, si Dieu le veut, » répéta la veuve.
Sous le voile, ses lèvres esquissèrent un sourire spectral.
« Et je crois bien que Dieu le voudra pour elle. Ta maman est une forte femme. »«
Je peux vous parler, Sai ? Si je ne me confie pas à quelqu'un, je crois bien que je vais exploser. »
« Bien sûr. Sortons sur le perron. Si tu le veux bien, je resterai ici cette nuit. Ça ne te dérange pas. Mais je te demanderai de rentrer Sunshine dans la grange. »«
Oui, là, »
fit Tim. Il était si soulagé qu'il alla jusqu'à sourire.
« Et grand merci. »
L'atmosphère s'était encore réchauffée. Assise dans le fauteuil à bascule où le grand Ross se reposait les soirs d'été, la veuve Smack déclara
« On dirait qu'un coup de givre se prépare. Traite-moi de cinglé si tu veux, tu ne serais pas le premier, mais c'est bien l'impression que j'ai. »
« C'est quoi, Sai ? » ?»«
Peu importe, n'y pense plus. Sauf si tu vois Sir Trocken danser sous les étoiles ou bien pointer sa truffe vers le nord. Ça fait des lustres qu'on n'en a pas vu dans les parages, pas depuis que j'étais un petit bout de chou. Et nous devons parler de toute autre chose. Est-ce le traitement que cette brute a infligé à ta mère qui te trouble, ou bien y a-t-il autre chose ?
Tim poussa un soupir, ne sachant par où commencer.
Je vois pendue à ton cou une pièce que j'ai vue pendue au cou de ton père. « Peut-être voudras-tu commencer par là. Mais nous devons parler d'autre chose avant cela, de la meilleure façon de protéger ta mère. Je t'enverrai bien chez le gendarme Howard en dépit de l'heure tardive, mais les volets de sa maison sont tous fermés. Je l'ai vu en venant ici. Cela n'a rien de surprenant. Lorsque le collecteur débarque à l'arbre, Howard Tasley a toujours de bonnes raisons pour s'absenter. » Ainsi que tout le monde le sait. Je suis une vieille femme et tu n'es qu'un enfant. Que ferons-nous si Bern Kells revient finir la sale besogne qu'il a commencée ?
Tim, qui ne se considérait plus comme un enfant, porta la main à sa ceinture.
En plus de la pièce de mon père, j'ai trouvé autre chose.
Il attrapa la hache du grand Ross et la lui montra.
Ceci lui appartenait également, et si l'autre ose revenir ici, je la lui planterai dans le crâne, là où elle doit être. »
La veuve Smack voulut le gronder, mais ce qu'elle lut dans ses yeux l'en dissuada.
« Raconte-moi tout, » dit-elle, « sans omettre un seul détail. »
Lorsque Tim eut fini, soucieux de n'oublier aucun détail, il cita la remarque de sa mère, selon laquelle l'homme à la bassine d'argent n'avait pas changé depuis des années. La vieille maîtresse d'école resta silencieuse un long moment. Mais la brise nocturne faisait frémir son voile, et on aurait dit qu'elle hochait lentement la tête.
« Elle a raison, tu sais, » dit-elle enfin.
«
Cet homme chariot n'a pas pris une ride. Collecter les impôts, ce n'est pas son métier. Ce n'est qu'un passe-temps pour lui, je crois bien. Cet homme a quantité de passe-temps, s'y fait. Quantité de petites lubies.
Elle leva les doigts, sembla les examiner à travers son voile, puis les reposa sur son giron.
Vous ne tremblez pas,
osa remarquer Tim.
Non, pas cette nuit. Eh, c'est une bonne chose si je dois veiller au chevet de ta mère, ce que j'ai bien l'intention de faire. Quant à toi, tu te coucheras derrière la porte. Ce ne sera guère confortable, mais si ton beau pas revient, et si tu veux avoir une chance de l'abattre, tu devras l'attaquer par derrière. Ça ne ressemble pas aux aventures de Bill le Brave, pas vrai ?
Tim serra les poings et sentit ses ongles se planter dans sa peau.
C'est comme ça que cette brute a tué mon pas, et elle ne mérite pas mieux.
Elle prit sa main dans la sienne et l'ouvrit doucement.
Peut-être qu'il n'osera pas revenir de toute façon, d'autant qu'il croit sans doute avoir tué ta maman. Il y avait tellement de sang.
C'est une brute,
dit Tim d'une voix éraillée.
Si fait. Je te parie qu'il cuve dans un coin. Demain, tu iras voir Peter Cossington le costaud et Ernie Marchley le lambin, car c'est dans leur concession que repose ton pas. Montre-leur cette pièce et dis-leur que tu l'as trouvée dans la malle de Kells. Ils rassembleront une posse et le traqueront jusqu'à ce qu'il soit jeté en prison. Ça ne leur demandera pas beaucoup de temps, je présume, et ensuite il pourra proclamer qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être même qu'il dira vrai, car certains ivrognes oublient leurs méfaits une fois dégrisés.
J'irai avec eux.
Non, ce n'est pas la place d'un enfant. Déjà que tu dois monter la garde cette nuit avec la hache de ton pas. Oui, cette nuit tu dois être un homme. Demain tu pourras redevenir un petit garçon et la place d'un petit garçon est aux côtés de sa mère lorsqu'elle souffre.
Le collecteur a dit qu'il resterait peut-être encore un jour ou deux sur la piste du bois de fer. Peut-être que je devrais...
La main de la veuve, naguère si apaisante, se referma sur le poignet de Tim et le serra à lui faire mal.
Surtout pas. N'a-t-il pas commis assez de dégâts?
Que voulez-vous dire? Que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé? C'est Kells qui a tué mon pas, et c'est Kells qui a battu ma maman.
Mais c'est le collecteur qui t'a donné la clé. Et nul ne sait ce qu'il a pu faire d'autre, ni ce qu'il peut encore faire s'il en a la chance. Car il laisse dans son sillage des ruines et des pleurs, et cela du plus loin que l'on s'en souvienne. Si les gens le craignent tant, est-ce à ton avis uniquement parce qu'il a le pouvoir de les chasser de chez eux s'ils ne paient pas la taxe de la baronnie? Non, Tim, non.
Connaissez-vous son nom?
Non, et je n'en ai nul besoin, car je sais ce qu'il est. Une pestilence. Jadis, après qu'il eut commis un méfait que je me garderai de raconter à un enfant, j'ai décidé d'en apprendre davantage sur lui. J'ai écrit à une dame que j'avais jadis connue à Gilead, une dame aussi belle que discrète, mélange rare s'il en fut, et j'ai grassement payé le messager pour qu'il me rapporte sa réponse, qu'elle m'a supplié de brûler aussitôt lui d'ailleurs. Allant croire, quand il ne passe pas son temps à collecter l'impôt, c'est-à-dire à lécher les larmes que versent les pauvres gens, il murmure son fiel à l'oreille des seigneurs qui forment le conseil d'Elde. Quoiqu'il n'y ait que pour se reconnaître des liens de sang avec l'Elde, on dit que c'est un mage puissant et peut-être y a-t-il du vrai là-dedans, car tu as vu sa magie à l'œuvre.
« Ça oui, »
dit Tim. Il repensa à la bassine et à la façon dont la colère semblait grandir le collecteur.
« Certain, ajoutait ma correspondante, vont jusqu'à prétendre qu'il n'est autre que Merlin, le mage et conseiller d'Arthur Held en personne. Car on dit que Merlin est éternel et vit à rebours dans le temps. Elle ricana derrière son voile. « Ce qui n'a aucun sens, et me donne mal à la tête rien que d'y penser. »
Mais Merlin pratiquait la magie blanche, à en croire les contes.
Ceux qui identifient le collecteur à Merlin affirment que le glamme de l'arc-en-ciel du magicien l'a rendu fou, car on le lui avait confié avant la chute du royaume d'Elde. D'autres racontent que lors de son errance à l'issue de la dite chute, il a découvert des artefacts des anciens et qu'il a succombé à leur fascination et a vu son âme noircie pour sa peine. Cela se serait produit dans la forêt sans fin, où il possède une maison magique entre les murs de laquelle le temps s'est figé.
« Ça m'a l'air bien improbable, » dit Tim.
Mais l'idée d'une maison magique, où les horloges ne tic-tacent pas, où le sable ne coule pas dans les sabliers, lui semblait fascinante.
« C'est de la connerie, oui !»
Voyant son regard choqué, elle s'empressa d'ajouter.
« J'implore ton pardon, mais parfois la grossièreté, ça a du bon. Merlin lui-même ne peut pas être à deux endroits à la fois, glandant dans la forêt sans fin et à un bout de la baronnie du Nord et servant à l'autre bout les seigneurs et les pistoleros de Gilead. Non, le collecteur n'est pas Merlin, mais un adepte de la magie noire. C'est ce que croit mon ancien élève, et je le crois également. » Et c'est pourquoi tu ne dois plus t'approcher de lui. Tout ce qu'il pourra t'offrir ne sera qu'un mensonge. »
Tim médita là-dessus, puis demanda.
« Say, vous savez ce que c'est, une sig ?»«
Bien sûr, c'est une fée qui vit dans les profondeurs de la forêt. C'est le collecteur qui t'en a parlé ?»«
Non, c'est Willem les Blés, quand il m'a récité un vieux conte à la Syrie. » Pourquoi ai-je menti ?
Mais il le savait, au fond de son cœur.